17h04 sur Inter, je vous livre un mot qui sur cette antenne est un véritable synonyme de l'été, c'est blockbuster évidemment. Et bonsoir Frédéric Sigrist.
Mais bonsoir Kevin, effectivement on est ravis d'avoir été lancé comme ça, c'est merveilleux.
J'espère que vous êtes prêts pour cette nouvelle saison, en tout cas
je
parce que nous
prêt.
On l'est.
Je suis prêt, on se retrouve dans une heure pour un nouveau point sur l'info.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Blockbuster revient, Blockbuster revient, Block, 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 Blockbuster revient.
Blockbuster est de retour, alléluia.
Que tu fais pour les vacances? Je me branche sur Blockbuster, enfin à 17h. Pour moi la seule peur, c'est que Dedo ne soit plus chroniqueur.
Ce que j'attends avec impatience, c'est le blockbuster de cet été tous les soirs à 17h dans ces eaux-là avec Frédéric Sigrist.
Frédéric, et puis ton copain Dedo, grâce à qui vraiment on s'éclate.
Bonne saison à tous, bonne nouvelle saison, merci pour tous les podcasts et au plaisir de vous écouter.
Freddy revient, c'est vraiment bien. De la maison ronde avec tous tes copains, tu vas pouvoir faire le malin. Bon, ça fait plaisir que vous reveniez. Allez, bon été.
To be or not to be, not to be.
Comment allez-vous ? Attention, hein, je vous pose pas la question comme ça, histoire d'eux, hein. C'est pas un référendum sur la Constitution européenne. La réponse m'intéresse vraiment. Oh, la vanne politique de vieux ! Non, aujourd'hui, je veux vraiment savoir comment ça va, vous, les gens. Parce qu'entre cette quatrième et cinquième saison de Blockbuster, il s'en est passé des choses. Je sais pas vous, mais l'année a été bizarre. Confinement, reconfinement, télétravail, chômage technique, école à la maison, couvre-feu, vaccination, passeport sanitaire... Et là, on s'achemine vers une élection présidentielle qui promet d'être la plus what the fuck depuis des décennies. Il n'y a plus que Voldemort et Thanos qui n'ont pas annoncé leur candidature. Il s'est passé plus de choses en 2021 que dans les 10 dernières saisons de Walking Dead. Dans New York 1997 de John Carpenter, il y a une scène où Snake Plissken, incarné par Kurt Russell, décide de s'asseoir pépouze sur une chaise en plein milieu d'une rue, dépassé par ce qui lui arrive. En voyant ce film il y a des années, j'ignorais que John Carpenter était en train de mettre en image l'état mental des Français de 2021. Donc je vous repose la question, comment ça va ? Parce que si ça va pas terrible, je vous promets qu'avec cette cinquième saison de Blockbuster, on s'engage à tout faire pour que vous alliez mieux.
France Inter, Blockbuster,
juste ici ça va.
Frédéric Sigrist.
Allez mec, je crois que c'est le bon endroit, j'en suis sûr que c'est le bon. Le phare ? Le rocher et le restaurant, ça raccorde avec le doublon. Il n'y a pas de doute maintenant, ça veut dire que le trésor est près du restaurant.
Il n'y a pas beaucoup de films qui résument aussi bien l'esprit blockbuster que les Goonies. Film culte pour toute une génération, avec une intrigue on ne peut plus simple, une bande d'enfants trouve une carte au trésor dans leur grenier, et les voici partis à l'aventure à deux pas de chez eux. Pourtant, derrière cette histoire hyper classique, qui se situe dans l'esprit entre le Club des 5 et la bande à Picsou, se cache l'association des grands noms du cinéma de divertissement américain. Steven Spielberg, Richard Donner, Chris Columbus. Pour revenir sur ce monument, j'ai à mes côtés Quentin Durand. Bonjour.
Salut Fred.
Alors Quentin Durand, alias Régis, le stagiaire des affiches sur Twitter, le détourneur d'affiches de cinéma.
C'est ça.
Avec nous également Guimet Audicino, bonjour.
Oh, bonjour Frédéric.
Ravi de vous retrouver.
J'ai l'impression d'être un peu vieille, mais je vais essayer de tenir le...
Non, mais non. Si. Critique cinéma, chef de rubrique cinéma chez Télérama et chroniqueuse au Cercle sur Canal+.
Oui, et puis surtout, chroniqueuse...
Chez notre ami...
Chez Ali Ribéry, dans Grand Bien vous fasse.
Dans Grand Bien vous fasse,
Ali, je t'aime. Oui. Passe de bonnes vacances.
Je sais qu'il écoute en plus. Avec nous, évidemment, c'est la nouvelle saison. Il ne pouvait pas ne pas être là.
Ça, c'est
Dedo
sûr.
Dedo, je l'ai enchaîné à son siège. Il est là. Bonjour Dedo.
Bonjour, je suis très content. J'entends le thème de Dave Grusin. Ça fait très plaisir de partir sur les Goonies pour cette saison.
Dedo, qui est humoriste et qui joue actuellement son projet Princesse Leia au Festival Décibule le 16 juillet à Neuf-Églises, dans le Bas-Rhin, et le 17 et 18 septembre à la Maroquinerie, à Paris.
Très bien, c'est exactement ça.
Et en septembre, il y a le retour du nouveau spectacle Bien Fine, dont j'ai vu une exceptionnelle au point virgule et qui est excellent. Allez-y, rendez-vous service. Ensemble, on va revenir sur la genèse des Goonies, comment ce film a germé dans la tête de Steven Spielberg à une époque où tout ce qu'il touche a l'air de se transformer en or, comment s'est composé ce casting d'enfants charismatiques, véritable pépinière de stars en devenir, pourquoi ce film s'est installé comme une référence dans l'esprit des spectateurs au fil des ans. Allez, pendant une heure pour ce premier blockbuster de l'été, je vous propose de partir à la poursuite du trésor de Willy Le Borgne.
Trouve une carte.
Oui. Elle est pas neuve.
Eh, hey, regarde, il y a écrit 1632.
J'ai l'impression d'avoir déjà vu ça.
Non, c'est ton score maximum au flipper.
Si, c'est une année, Choco.
Regarde,
c'est quoi
tu crois pas que c'est une carte de la côte?
C'est du réchauffé, ça, les mecs, cette vieille carte. Tout le monde a essayé un jour de trouver ce trésor. Tiens, quand nos parents avaient notre âge, je veux dire, vous avez entendu parler de ce type, comment il s'appelle, le pirate, Willy Le Borgne.
Willy Le Borgne. Oui, c'était le plus célèbre pirate de son époque. Mon père m'a parlé de lui une fois.
Ce Willy Le Borgne a volé un énorme trésor.
Wow.
Un trésor plein de rubis et d'émeraudes.
Et de diamants?
Et de diamants. Et alors il a chargé tout son butin sur son navire et ensuite il a fait voile vers le couchant. Seulement le roi d'Angleterre a découvert ce qui s'était passé. Alors il a envoyé toute son armada à sa poursuite pour le rattraper. Et alors l'armada, elle a mis plusieurs semaines, mais elle a rattrapé Willy. Alors Willy s'est enfui parce qu'il ne voulait pas rester, parce qu'il savait que s'il restait, il allait se faire tuer. Et alors il est allé se réfugier dans une grotte. Et alors les Britanniques, ils ont fait exploser les parois tout autour du bateau et il a été enterré vivant, emmuré depuis ce temps-là.
Pour toujours?
Pour toujours. Pris au piège.
Waouh!
T'es aussi ringard que le vieux quand tu racontes ça.
Moi, je sais que papa dit la vérité. Vous savez ce qu'il a dit?
Quoi?
Il a dit aussi que Willy Le Borgne et sa bande ont continué à vivre 5 ou 6 ans.
Wow,
et ils ont creusé des tas de tunnels et de grottes secrètes. Et qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Il a tué tous ses hommes.
Oui, mais attends une minute, Mickey. Mais alors, si tous ces types sont morts, est-ce que tu peux me dire comment la carte est sortie?
Tu sais, j'ai posé la même question et mon père a dit, il y en a sûrement un qui est sorti. Et comme il avait emporté la carte.
Ça va, Mickey, c'est compris, je te crois.
Ouais, et ben moi, je te crois pas du tout.
C'est une belle histoire.
C'est une marathon, ce que tu racontes.
Moi aussi, je te crois, Mickey. Hein?
Guillemette Odissino.
Oui, Frédéric.
Quel est votre tout premier souvenir des Goonies?
Eh bien, mon tout premier souvenir des Goonies n'a rien à voir avec ma propre enfance. De toute façon, en 1983, j'étais limite de passer mon bac. C'est lié à l'enfance de mes enfants. Je leur avais montré Les Aventuriers de l'Arche Perdue, qui avait été une grande révélation de ma...
Avant les Goonies?
De ma... Absolument.
Ah ouais?
Absolument.
Tu les plonges tôt, hein?
Bah, oui, mais parce que c'était mon propre émerveillement d'enfance. Et je ne sais pas pourquoi j'avais loupé les Goonies à cette époque-là. Et donc, quand j'ai cherché... Qu'est-ce qui pouvait encore leur donner ce goût d'aventure? Et je me suis dit, mais mon Dieu, mais moi qui n'ai pas vu les Goonies, la même aventure, plus ou moins, on en parlera, j'imagine, mais avec des enfants comme héros, bien sûr. J'ai acheté la cassette vidéo, la VHS.
La fameuse VHS.
Et là, j'ai provoqué mais un tremblement de terre dans leur petit cœur d'enfant.
Plus que les nazis dans Les Aventuriers de l'Arche Perdue, c'est intéressant.
C'est dingue, oui, c'est fou.
Ah
hein.
Ouais, hein.
Et dans le mien aussi, c'est-à-dire je me suis et on est devenus ensemble, c'est ça qui est joli. C'est-à-dire ça, le coup de foudre pour cette histoire a été familial. Mes enfants et moi en même temps. Et depuis, après, je l'ai revu pour y chercher toutes les références, pour y découvrir tous les clins d'œil. Ce film et eux-mêmes, leur cinéphilie grandissante, se sont aperçus a posteriori de tous les clins d'œil et de toutes les références.
Quentin Durand,
ouais,
quand j'ai annoncé que j'allais faire un blockbuster sur les Goonies, il y a une personne mais qui a poussé tous les autres qui a levé la main en disant « Ouais, moi, je veux parler des Goonies !» Je recevais des pigeons voyageurs la nuit, enfin vraiment, j'ai senti que ça vous tenait à cœur.
Un peu.
Donc qu'est-ce que représentent les Goonies pour vous?
Mais on le dénonce tout de suite qu'il a un t-shirt Goonies.
Il a un t-shirt Goonies, un tatouage Goonies.
On a tout Goonies.
Enfin, il a même, mais il va le dire certainement, il a la cassette VHS Popcorn de la collection Popcorn qu'on a tous eu à un moment de
Oui, bien sûr.
Voilà, qui était très Amblin dans l'absolu.
Mais qui incarne les années 80. Oui, moi, je quelques années après.
Quelle galanterie.
les Goonies, c'est mon enfance. J'avais leur âge. Donc, quand la VHS est sortie, j'étais trop jeune pour aller le voir au cinéma. Enfin, en tout cas, mes parents m'ont pas emmené le voir. Mais les copains ont commencé à en parler dans la cour d'école. Et on n'avait pas encore de magnétoscope. Donc il fallait soit que j'aille chez les copains qui l'avaient, soit qu'ils le passent à l'école en fin d'année quand il n'y a plus rien à faire, qu'on sort les cassettes.
Oui.
Enfin, maintenant les DVD, mais voilà, les films.
Oui, et les enfants y ont eu droit cette fin d'année encore. Je vous sens sur le même magnétoscope.
Donc moi c'était ça, non seulement c'était quelque chose dont tout le monde parlait dans la cour, auquel j'avais pas beaucoup accès, mais quand j'y avais accès, c'était, on le regardait en groupe, parce que le Magnéto, il n'y en avait pas tant que ça non plus, donc c'était vraiment des expériences de groupe entre potes, et bah, on était les Goonies. C'est-à-dire qu'après on allait chercher nos BMX, on partait dans les bois, et même si quelque part on savait qu'il n'y avait pas de trésor, il y en avait un quand même, enfin... C'était ce monde imaginaire.
Quelqu'un l'avait récupéré avant vous.
Voilà, on était là sous le pont de RER, du RER à Marne-la-Vallée, en train de savoir pertinemment qu'il n'y avait rien. Mais on se disait, c'est ouf. Parce que c'était ça, ces films-là. On en reviendra dessus. Après, c'est la promesse que le merveilleux, l'aventure était au coin de la rue. C'était pas la peine d'être un super-héros pour y avoir droit. Et on était tous, du coup, des Goonies. C'est ça qui était magique.
Des dos. Les Goonies.
Alors moi, mon premier souvenir, je l'avais aussi découvert en VHS, mais en fait, ça a démarré par la cour de récré parce que j'entendais des gens se répéter des bouts de dialogue. Et surtout, j'avais des potes qui bloquaient sur le Goofy Goofon. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le film, c'est une scène où Choco est censé, justement, pour pouvoir rentrer, parce que Bagou lui prend un peu la tête, il est obligé de soulever son t-shirt et de secouer un petit peu le fait qu'il est un peu en surpoids. Ça faisait assez marrer à l'époque. Ça aurait été grossophobe maintenant, mais là, on était un peu plus détendu.
Ah ben, je pense que les gens voudraient, ça l'était déjà à l'époque, mais.
Mais là, on n'aurait dit plus jamais cette scène. Qui est quand même une scène rigolote, je suis désolé. Et ouais, donc tu pues le gymnase, toutes ces... un moment,
d'ailleurs,
t'as envie de...
ce qui est très intéressant, c'est que l'acteur qui joue Choco avait, si je ne m'abuse, eu la varicelle juste avant.
Oui.
Et ce qui fait que dans cette scène, il a plein de petits boutons, oui, quand on regarde bien, et qui sont dus au fait qu'il n'avait pas voulu dire aux gens qu'il était malade parce qu'il ne voulait pas qu'on le remplace.
Bah c'est ça, ouais, bah t'as envie de faire partir cette aventure-là. Et puis ouais, malgré tout, j'étais un peu justement fasciné par ce que faisait Spielberg, en début d'adolescence, puis de savoir qu'il était sur l'écriture. Après, par la suite, j'ai appris que c'était aussi Chris Columbus. Et voilà, donc il est aussi à l'origine Spielberg de l'histoire. Et c'est Chris Columbus qui a écrit le scénario, qui était déjà un peu spécialisé par le. Il avait bossé sur Gremlins, puis entre temps, il a fait justement Le Secret de la Pyramide, Young Sherlock Holmes, pour ceux qui connaissent pas. Pareil, très grand film d'aventure où on apprend la jeunesse de Sherlock Holmes. Aussi Harry Potter. Donc voilà, c'était l'équipe
petite team. Franchise qui est venue plus tard.
Un petit peu plus tard, mais je sais pas si les gens connaissent.
Maman, j'ai raté l'avion, c'est quand même un carton planétaire. Oui.
Pour le coup, Chris Columbus, c'est un peu le pendant de John Hughes, c'est-à-dire qu'il traitait l'adolescence, mais un peu moins dans l'enceinte scolaire. C'était plus le côté justement aventure fantastique, ce qui est un poil plus attirant déjà pour l'adolescence. Et puis ensuite, après, ça se développe sur d'autres choses. Mais le film était parfait, les dialogues étaient fous, le doublage était génial.
Il est sur la pré-adolescence, lui.
Ouais.
Hughes, il est sur la vraie adolescence.
Un peu plus sur l'adolescence. Ouais. Là, c'est la fin de l'adolescence, la fin de l'enfance, le début de l'adolescence.
Et puis, il y a quand même un nom à qui il faut rendre hommage, c'est Richard Donner, qui est quand même pas n'importe qui.
Évidemment.
Parce que voilà, c'est Superman 1 et 2.
Lady Hawk.
L'arme fatale.
La malédiction.
Damien 76, évidemment.
Damien. Et en plus, c'est Richard Donner à un moment où ça marche un petit peu moins bien pour lui en termes de box-office.
Ouais. Ah ouais, là, il retombe un peu, et je pense que Spielberg, malgré tout, se dit que c'est la bonne personne pour pouvoir transcender un petit peu le matériau de ce que va devenir les Goonies, et il le fait de la meilleure manière possible, parce que voilà, le film est devenu culte au fil des ans. Moi, je sais qu'il a réussi à traverser les âges, parce que même au niveau de la technologie, quand j'ai tapé les Goonies hier sur mes notes, il a proposé les cookies. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est la meilleure sucrerie pour un adolescent à consommer, et c'est parfait.
Je pense qu'il a demandé à Richard Donner aussi, parce que... parce qu'il le sentait tout terrain, en fait. C'est-à-dire que La Malédiction, c'est le parfait film d'épouvante. Superman, c'est le parfait film de super-héros. Lady Hawk, c'est le parfait film d'heroic fantasy. Et on sent qu'il il touche à tout. C'est un vrai bon réal à qui on peut donner un bon scénario qui saura quoi en faire. Et je pense que Spielberg, il s'est dit, je veux un vrai bon réal pour lui confier mon bébé, en fait. Pour être sûr de ne pas être trahi.
Et avec une capacité, parce que Richard Donner, après, il l'a prouvé plus tard avec le premier Arme Fatale, une capacité quand même assez rare à mêler des trucs qui sont pas marrants. Enfin, il y a quand même des cadavres, des squelettes à tout le temps. Enfin, et avec un sens du comique, de la répartie, du burlesque totalement intégré dans une histoire qui pourrait quand même foutre la trouille, qui est quand même très très particulière de Donner.
Ça, pour le coup, c'est vraiment son style, hein, parce que même dans Superman, il y a le personnage d'Otis qui tout d'un coup est marié avec Lex Luthor, qui lui peut être terrifiant à certains moments. Mm-hmm. Et c'est vraiment la marque de fabrique de Donner.
Et il donne d'ailleurs le ton dès le début du film, parce que la scène d'évasion du frère Fratelli, c'est une fausse tentative, une fausse suicide par un pendu. Et en fait, il fait semblant, et donc il s'évade comme ça. Donc il donne le ton, ça va être à la fois sombre, à la fois fois drôle, et c'est quand même les deux mamelles préférées des enfants et des adolescents au cinéma, donc c'est parfait.
Et cette scène d'ouverture est incroyable. C'est un manifeste du génie de Donner. C'est-à-dire que ça commence par l'évasion, donc on comprend qui sont les méchants, d'où ils viennent, où ils vont. On les suit jusque là où ils vont, et sur leur chemin, ils passent devant chacun des Goonies un par un, dans une scène qui les définit chacun, c'est-à-dire Data avec ses gadgets, etc.
La caractérisation par l'action, t'as raison.
Incroyable.
Alors, qui dit blockbuster des années 80 dit évidemment bande originale des années 80. On écoute Cyndi Lauper avec Goonies,
Good Enough.
Cette émission est réalisée par Céline Hila, elle a été préparée par Manon Rax et Cyril Marchand, avec l'aide de notre stagiaire réalisation Véronique Ameyer, et aujourd'hui à la technique, Victor Ouvrard. Cyndi Lauper dans Blockbuster sur France Inter.
85, 88, 86.
Mickey, tu sais, on dirait bien des coups de feu.
Oui.
Pas des bambans comme on entend dans les films de guerre, mais des coups de feu, des vrais coups de feu.
Oui,
ils vont nous tuer.
Oui, Choco, mais fatigue pas trop tes ménages. C'est juste quelqu'un qui a fait tomber une poêle.
Oui,
une poêle,
quelqu'un a fait tomber une poêle.
Ou une casserole.
Tu es sûr, Mickey?
On continue.
90. Si c'est sûr, je suis sûr, moi aussi. Si c'est juste un bruit de casserole, si c'est pas parce qu'ils veulent nous tuer, mais... qu'ils vont nous tuer, je suis même sûr.
Benjamin Ducy, notre reporter de terrain, est parti en quête des fans des Goonies dans les rues de Paris. Et apparemment, faut pas chercher longtemps avant d'en trouver, mais tout le monde n'a pas le même rapport au film.
Chez Sergio Leone, le monde se divise en deux catégories. Mais les gens qui connaissent les Goonies se divisent plutôt en trois catégories. Alors évidemment, on tombe parfois sur des gens qui en ont
rien à foutre des Goonies.
Mais quand on creuse un peu, on comprend assez vite qu'il y a d'abord ceux qui connaissent vaguement le film, mais sans forcément l'avoir vu. Ça donne des échanges un peu hasardeux.
C'est Peter Jackson, je crois, de mémoire, hein, les Goonies. C'est un de ses... C'est pas un de ses premiers films ? Non, je connais de réputation, mais je l'ai pas vu, non.
Et oui, je crois que c'est des enfants, non ? Ils font des bêtises, non ? Ouais. Bah, je l'ai pas vu, le film.
Bon, et puis, il y a ceux qui l'ont vu quand ils étaient gosses. Là, les souvenirs sont un peu plus précis, à part peut-être pour Mamie.
Ah, j'ai pas vu.
Non. Si, je le dis, Mamie, c'est un vieux film avec un groupe d'enfants qui partent... explorer.
Il y a un truc dans une grotte, je crois qu'ils sont dans une barque dans une grotte, un truc comme ça, mais je l'ai dû voir une fois il y a 20 ans, mais j'ai pas de souvenir précis.
Je pense que c'était notre film préféré avec mon pote d'enfance, on l'a vu je sais pas combien de fois en VHS, mais pas depuis 30 ans.
J'ai un vague souvenir juste du titre, mais je me souviens plus du film.
Et alors dès qu'on tombe sur des fans, là ce sont surtout les personnages qui restent dans les mémoires.
La première scène où on voit Choco.
J'ai vu la chose la plus hyper géniale que j'ai jamais vue de ma vie.
En fait, chacun a un peu sa propre relation particulière au film et à ses personnages.
Au moment où c'était culte chez tous mes amis adolescents, j'avais du mal à avouer que je ne l'avais pas vu. J'ai donc découvert ce film bien plus tard, quand j'avais peut-être déjà 25 ou 30 ans, en regrettant beaucoup d'être passé à côté du phénomène. Et quand on me dit Sinoc, je sais de quoi on parle.
Et enfin, la troisième catégorie, c'est celle des fans absolus, qui non seulement ont vu le film enfant, mais continuent à le regarder régulièrement, et mettent même un point d'honneur à transmettre ce trésor des années 80 à leur progéniture.
Ça m'évoque mon enfance, c'est vraiment les films qu'on avait à l'époque avec des vraies histoires. Moins d'effets spéciaux, mais des belles histoires.
Les Goonies, ils trouvent un passage secret et...
Ouais, c'est moi qui l'ai montré, ouais. C'est moi qui l'ai montré, il adore. On essaye de lui montrer un peu ce qu'on avait avant, plein de petits films comme ça.
Génération E.T., Rocky, Retour vers le futur, les Spielberg, voilà, les Ridley Scott, les bons films, quoi, les bons scénars.
Je crois qu'on sera d'accord pour dire qu'ils sont pas nombreux, hein, les films à avoir gardé un tel impact sur le public 36 ans après leur sortie.
La question que j'ai envie de vous poser en écoutant les réactions assez variées autour des Goonies, c'est est-ce que c'est un phénomène de pure nostalgie ou est-ce qu'il y a derrière les Goonies tout simplement un excellent film bien réalisé avec... moi j'ai déjà un petit élément de réponse dans la question, mais est-ce qu'il n'y a que la nostalgie ? J'aimerais avoir votre avis.
Ah non, absolument pas. Parce que la nostalgie, elle finit par se dissoudre dans la mauvaise qualité des films, quand même. Non, c'est un très bon film d'action. C'est un film, en fait, qui à la fois convoque la nostalgie, mais convoque la qualité d'aujourd'hui. Parce qu'on compare le film à ce qui, aujourd'hui, est proposé à un jeune public. C'est-à-dire des trucs lisses, des trucs où, évidemment, on peut pas avoir peur. On parle d'un temps très cher où ça ne faisait pas peur, y compris, donc, et forcément à Steven Spielberg, de montrer des cadavres. Des squelettes, de faire peur aux enfants.
Et les Fratelli sont vraiment méchants.
Et les Fratelli sont vraiment méchants. Personne n'a envie d'avoir la mère Fratelli comme mère. Il y a des monstres qui s'avèrent être gentils, mais cette confiance dans le spectateur, dans le jeune public, a un peu disparu, faut être quand même honnête. Donc même le voir aujourd'hui, c'est s'apercevoir à quel point ce film était, on l'a entendu, c'est une histoire folle. Bien réalisé, avec un rythme dingue, très bien joué par tous ces gamins, et qui nous montre à quel point aujourd'hui le divertissement pour toute la famille est pauvre.
Quentin Durand, il y a aussi une notion qu'on n'a pas encore abordée au sujet des Goonies. C'est le vocabulaire fleuri dont nous a gratifié la version française. Mais ces gamins ne cessent absolument jamais de dire des gros mots.
Jamais. Mais c'est ça qui est génial. C'est aussi pour ça que ça reste culte, parce que justement les anciens enfants qui sont devenus adultes, qui ont maintenant des enfants comme moi, je montre à mes enfants. Je vous avoue que j'avais plus en tête, même si je regarde beaucoup. Jamais le montrer avec ses enfants à côté de soi, on fait pas attention au vocabulaire. Et après, quand on a ses petits à côté, on se dit, quand même. Mais c'est ça qui marchait quand on était gosse. C'est-à-dire que c'est un film à hauteur d'enfant, c'est le parfait mix de E.T. et des aventuriers de l'Arche perdue. C'est-à-dire qu'on a un groupe de gosses en vélo poursuivis par des méchants qui sont motivés par le pognon et qui vont à la recherche d'un trésor. Une parfaite imbrication des deux films qui sont d'un côté et de l'autre, que Spielberg a sorti successivement. Et donc ça, déjà, on nous racontait l'histoire à hauteur d'enfant en nous disant ce que vivent les grands, vous pouvez le vivre aussi vous. mais en plus avec un langage d'enfant, c'est-à-dire que le langage de la cour d'école que vous faites très attention de ne pas dire à la maison pour pas vous faire punir par papa et maman, on sait que vous le parlez, on va vous le montrer, et ils vont parler comme ça. Et c'est aussi pour ça que Donner, très intelligemment, les a beaucoup laissés improviser. Et il y a beaucoup d'insultes ou de gros mots qui ont été rajoutés par eux. Alors, une vanne qui n'a pas été traduite, c'était les booty trap, donc les pièges à fesses.
Les boom schtatrap. Les
boom schtatrap. Ouais, qui a été traduit par les boom schtatrap. Mais en anglais, il dit booty trap, les pièges à fesses, au lieu de booby traps.
Oui.
Voilà. Et tout ça, en fait, ils l'ont bien compris, le doublage est vraiment incroyable. Tu disais, Dedo, c'est vrai, il est vraiment super bien pensé, ce doublage, parce que les doubleurs ont compris qu'il y avait, il fallait se mettre à hauteur du langage d'enfant. Et il n'y a pas, du coup, quand on le regardait enfant, ce besoin de se mettre à hauteur d'adulte. C'est comme les Tom et Jerry d'ailleurs, où on voit que les adultes à hauteur de taille.
Et on voit que les jambes.
Que les jambes, voilà. C'est un monde qui n'appartient qu'aux enfants, et les méchants font hyper peur, mais ils sont très cartoonesques. C'est-à-dire qu'ils vont tomber à cheval sur un tronc d'arbre en faisant ça nous éclate à chaque fois, on rigole tous
mais
au même moment.
C'est quelque chose que Chris Columbus réutilisera dans Maman, j'ai raté l'avion. Les méchants nous font rire, mais au bout d'un moment, ils ont vraiment l'intention de zigouiller Kevin.
C'est-à-dire que c'est un peu comme un parc d'attractions dans l'attraction qui fait peur. On y va pour se faire peur, ça fait peur, mais on sait qu'on est en sécurité.
Moi, j'aimerais revenir sur le travail d'adaptation qu'on a abordé, mais c'est vrai que l'adaptation française, au-delà du langage fleuri, comme tout le monde l'a abordé, a aussi un vrai travail de punchline qui est assez fou dans le film. Je parlais tout à l'heure de Tupu le gymnase qui était marquant pour tout le monde.
Oh là là.
Mais quand je vais te frapper tellement fort que quand tu te réveilleras, tes fringues sont plus à la mode. C'est une punchline incroyable. Ouais. Enfin, le film est parsemé de tout ça, et effectivement, le doublage est à la hauteur de tout ce grand travail. On peut citer Philippe Petiot qui joue le rôle de Francis, qui, pour ceux qui ne savent pas, est la voix d'Homer Simpson.
Oui.
Donc il a été marquant pour le reste d'une génération ensuite. Et puis il y a Richard Darbois,
Damien Boisson, oui, qui double
Richard Darbois, ouais. Richard Darbois, qui Darbois, un grand Sinoc. Nom du doublage
Sinoc.
Qui fait Harrison Ford qui fait Sinoc alors qu'il faisait Harrison Ford Richard Gere. Et donc c'est assez fou d'avoir déjà tout ça. Mais de toute façon, le film est un ensemble total. On parlait de la BO aussi vite fait. C'est vrai que la BO fait partie intégrante de l'aventure du film. Dave Grusin, qui a aussi fait le score de Tootsie, qui bossait aussi avec Sidney Pollack, a réussi à mettre parfaitement en musique les images et la folle aventure chevaleresque que vont vivre les personnages. Donc, et puis, tu parlais du squelette. Il y a un thème récurrent qui est très présent à l'époque, justement, parce qu'on pouvait aller loin. Mais on parlait de Spielberg qui bosse sur le film. Il en met partout. Il en met dans les aventuriers de l'Arche perdue. Il en met forcément là-dedans. Il en met même dans Poltergeist, qui produit et qui plus ou moins réalise. Ça, c'est une autre histoire.
Mais ça, d'ailleurs, on en parlait. C'est-à-dire le moment où Spielberg produit. Et en fait, on le retrouve assez facilement derrière la caméra.
Oui, bien sûr. Bah, il ne peut pas s'en empêcher.
À quel point?
Oui.
Y compris dans tous les mécanismes, pièges, poulies. C'est un film de poulies. Hein.
Oui.
Il y a des poulies partout, des pièges partout. Même à côté, les aventuriers de l'Arche perdue, c'est pauvre.
C'est très ingénieux.
C'est ingénieux. Et sur le rapport adulte-enfant, au-delà du rapport que le spectateur entretient avec ça, à l'intérieur même du film, Mama Fratelli, quand même, l'une de ses premières punchlines toutes simples, c'est « Les enfants, c'est de la merde
ouais,
hein. ».
C'est vrai.
Donc, il y a vraiment un truc où on met l'enfant en position, justement, d'être un héros, y compris quand il est spectateur, puisqu'il a ouvertement un ennemi en face de lui. Ça va pas être caressant. Il va falloir qu'il se batte.
Ouais.
Et ça, ce côté, tu es obligé de devenir un héros parce qu'en face, c'est pas gentil. C'est un truc dingue qu'on propose à l'imaginaire du public jeune.
Il y a le personnage
de
Bagou, Corey Feldman, qui se retrouve à la première rencontre avec Mama Fratelli, où logiquement, n'importe quel enfant serait transi de peur, et Bagou continue de la ramener.
Il est défini par ça, c'est Bagou.
Mais c'est très bien vu, parce que du coup, tout d'un coup, on se rend compte du super pouvoir de cet enfant, qui est de toujours la ramener envers et contre tout.
Mais le plus beau, c'est quand même Choco, qui à un moment est quand même quasiment torturé.
On va entendre.
Et qui à ce moment-là est au confessionnal. Hein. Il n'a pas compris qu'il fallait avouer autre chose. Il avoue tout ce qu'il a fait depuis longtemps.
Toute son histoire.
Mais c'est hilarant.
C'est une
complicité avec l'enfant, ça, qui regarde. C'est-à-dire que l'autre est en train d'avouer, oui, ma mince, j'ai fabriqué du faux vomi, etc. Enfin, donc c'est le décalage aussi quand on demande à un enfant d'avouer quelque chose, il avoue complètement autre chose.
Mais en même temps, il a été très bien mis déjà dans le bain par Mama Fratelli, parce qu'elle essaye à un moment de lui foutre la main dans un mixeur et elle lui dit « tu vas dire la vérité ou je fais du jus de menottes », qui est une réplique incroyable. Vraiment. Mais
sa réponse est incroyable.
C'est une scène incroyable. Non,
je veux jouer du violon.
Ah, bien sûr.
Alors, on va continuer de parler des Goonies, mais pour le moment, on va faire une petite pause musicale avec Youssoupha qui nous interprète Astronaute.
Loin du soleil, loin du soleil, loin du soleil, je rêve d'être astronaute. Loin du soleil, loin du soleil, loin du soleil, je rêve d'être astronaute. Alléluia. Pas d'auréole, mais couronne sur ma tête. Je m'en suis sorti parce que je me débrouillard. Je crois en Dieu et je crois en moi-même. Depuis le début, rien qui nous méprise. Négro, bien sûr que je préfère les miens. Je te déteste comme tous les gens qui me disent. J'aime pas le rap, mais bon, toi, je t'aime bien. On a fait le ménage et le sale boulot. Jamais écrit, on n'a jamais ragé. Parfois, faut accepter d'être sous l'eau. Être sous l'eau, c'est apprendre à nager. À chaque défaite, ils diront c'est ma faute. À chaque victoire, ils diront que je cruche. J'ai toujours refusé de juger les autres, parce que je refuse que les autres me jugent. J'ai tellement rappé, désormais je crône. Je veux le terrain, pas assis sur le banc. Les refrains disent souvent c'est Dieu qui donne. Ils oublient que c'est aussi Dieu qui reprend. Je rappe toujours avec canon sur la tempe. Et le combat continue. Demande au public s'il est prêt à jump. Neptune et le Terminus, ils peuvent nous mépriser mais pas nous maîtriser. Ils veulent dramatiser, je vais grave traumatiser. J'ai crisé, j'ai teasé, la bouteille j'ai brisé. Révolution sera pas télévisée, elle sera téléguidée, respecte ma répute. Rêve de l'espace, mets la terre à tes pieds. En combi d'astronaute à l'arrêt de bus, je confonds la NASA à la RATP. Pendant que la police d'ici se prend pour Robocop, fils d'immigré aura toujours la dalle. En amour c'est dur de rester au top, dur comme t'as fait les abdos à la salle. Je suis le daron de la matrice, fume cigare sans cannabis, ouh. L'Occident paiera ses dettes, sinon son futur c'est dead. Ra, ra, presque en solo, j'ai même pas de grosse équipe. Me parle pas trop ta morale, ton éthique. Cherche avocat pour prochaine polémique. Que la vodka vienne me rendre poétique. J'ai connu épreuve et guerre, l'amour, les océans de larmes. J'suis pas là pour un buzz éclair, mais pour l'infini et au-delà. Prims. Loin du soleil, loin du soleil, loin du soleil, je rêve d'être astronaute. Loin du soleil, loin du soleil, loin du soleil, je rêve d'être astronaute. Loin du soleil, loin du soleil, loin du soleil, je rêve d'être astronaute. Loin du soleil.
C'était Youssoupha qui chante Astronaute.
Blockbuster.
Le grappin m'a choisi.
Frédéric Sigrist.
Adieu mes amis, je vous quitte pour un monde meilleur.
Sur France Inter.
Sachez-le, le monde est étrange, peuplé de gens très différents. Et la preuve, il existe des gens qui n'aiment pas les Goonies.
Je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde.
C'est nul.
Non, pas terrible.
Zéro. C'est de la merde.
C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà.
Passons aux Goonies, une production de Steven Spielberg, l'un de ses films les moins réussis.
C'est le film produit par Spielberg, les Goonies, qui se trouve en première semaine en tête du classement, dans 51 salles, 115 000 entrées, mais enfin, il n'y a pas de quoi crier victoire.
Le scénario, à la Christophe Colomb, est un peu banal, tout comme la mise en scène de Richard Donna. C'est aux enfants de sauver la situation, à condition qu'ils puissent trouver le trésor perdu du célèbre pirate Willy le Borgne. Ça paraît un peu gros, non ? Les Goonies, Sean Astin, Jeff Brolin, le grassouillet Jeff Cohen, Corey Feldman et Keke Kwan, que vous avez probablement vu dans Indiana Jones, sont une bande de brutes et de mal élevés. Tout est mené sur une note d'hystérie continue qui est finalement fatigante à entendre et à regarder.
Un mauvais moment à passer.
Alors, le casting a été évoqué, Guillemette Odissino. Je ne comprends pas comment on peut ne pas apprécier ce casting d'enfants qui sont tous devenus, à leur échelle, des petites stars planétaires.
Oui, non, puis vous avez remarqué, le grassouillet, mais qu'est-ce que c'est que cette manière de... Là, on est dans la grossophobie, clairement.
On est en 85. En 85, ça gêne pas.
En 85, ça gêne pas, mais on parle quand même d'un petit garçon.
Un petit garçon,
donc,
tout à fait.
Donc, la violence de la chose. Mmh. Ben, évidemment que le casting est incroyable. Quand on voit le film, moi, ce qui m'impressionne à chaque fois, finalement, le plus, au-delà du plaisir dont on parle depuis tout à l'heure, c'est cette capacité de mitraillette de ses enfants, d'agir, le moindre acteur à qui vous demandez de courir, grimper, tout en balançant des phrases de dialogue, déjà il est perdu. Eux, ils grimpent, ils courent, ils s'affolent, ils se prennent des poulies dans la gueule, etc. Et en même temps, un débit sur les répliques, un naturel incroyable, des choses aussi très romantiques, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a 2-3 petites histoires d'amour en même temps là-dedans, contre un rocher qui prend la flotte, qui sont en train de se nouer.
Oui.
C'est d'une vérité, c'est d'un rythme. Donc de dire que ces gosses-là n'ont pas de talent, c'est d'une... Je sais pas si c'était grassouillé, le critique qui a dit ça m'énerve.
ils sont vraiment incroyables. Richard Donner le dit dans chaque interview sur le film qu'il a la possibilité de donner, c'est qu'il leur donnait à chaque fois, bon, ils avaient leur texte, mais il les laissait improviser énormément. Et les meilleures répliques sont celles qui ont été improvisées. C'est-à-dire qu'il y a un lapsus sur booty traps en VO, comme je disais tout à l'heure. C'est de l'impro. Et la manière dont ils arrivent à incarner le pétage de plomb total, c'est-à-dire qu'il y en a, chacun fait sa crise de nerfs quand même. C'est-à-dire que Bagou qui va récupérer sa pièce dans le puits à souhait en disant « Tu vois ça, c'est mon souhait, il s'est jamais réalisé, alors je reprends toutes les pièces. » Le mec part en dépression, quoi. Vraiment, donc la magie n'existe pas, je reprends ma pièce et de toute façon tout ça c'est du pipeau.
Et Corey Feldman qui était apparu dans Gremlins.
Aussi.
D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais il y a un crossover qui ne dit pas son nom avec Gremlins.
Avec Gremlins.
Il y a une notion d'univers partagé.
Mais c'est Spielbergverse.
Spielbergverse, c'est donc déjà, le film est un film incroyablement méta, c'est-à-dire que Sinoc a un t-shirt Superman que Donner a réalisé. On voit Cyndi Lauper à la télé qui a fait le clip du film. Et effectivement, ça aussi. Donc, c'est vraiment un film truffé de petits crossovers comme ça. Quand Choco téléphone chez les flics et il dit, il va pour raconter l'histoire des pirates. Et le flic lui dit, oui, c'est comme la fois où tu m'appelais pour dire que des petits monstres verts ont envahi la ville. C'est-à-dire que Corey Feldman est dans Gremlins, Corey Feldman est dans les Goonies, et les flics ont entendu parler des Gremlins. C'est fou, quoi. C'est déjà ultra méta.
Et il y a ce moment, tu parlais de cette pièce où il dit j'ai fait des vœux, etc. Mais il y a le moment aussi où Mike, enfin Sean Austin, donc,
Samwise Gamgee dans
bien sûr, Sean Austin.
Et plus tard dans Stranger Things.
Oui, dans la deuxième saison de Stranger Things.
La pop culture se recycle.
Ce moment où ils veulent tous fuir, là, ils commencent vraiment à pétocher grave. Faut dire, ils ont quand même belle raison de pétocher, et où il les convainc de rester, parce que c'est au tour des enfants. Les parents, eux, se sont battus contre l'expropriation. Les parents, eux, au-dessus, donc à la surface, font leur maximum. Donc c'est à eux, en bas ouais, de faire leur maximum pour éviter que les promoteurs détruisent leur univers. Ce moment-là, cette espèce de petit monologue, mais attention, moi, chaque fois que je le revois, j'ai les poils,
oui,
ça m'émeut. Donc, il y a une capacité.
Il y a du leader syndicaliste en lui.
Il y a du leader syndicaliste. Mais il y a une capacité de jeu qui est au-delà de la petite vanne, du rythme et tout. Il y a une capacité déjà dramatique qui est dans ces gosses, quoi.
Puis elle est très belle, cette scène, parce que c'est leur dernier échappatoire, en fait. C'est-à-dire qu'ils s'embarquent dans cette aventure depuis la petite cheminée, ils commencent les petits couloirs, etc. Et là, ils ont une porte pour sortir. Dernière chance avant de vraiment aller au bout. Et ça pose la question de qu'est-ce qu'on fait ? On s'embarquait là-dedans, est-ce qu'on va au bout ou pas ? Ça pose aussi donc la question du libre-arbitre, qu'est-ce qu'on fait ?
Et le film bascule de l'aventure et du rêve d'aventure,
ouais,
à vraiment quelque chose de quasiment politique.
Ouais, ouais,
c'est-à-dire, si là on abandonne, les promoteurs auront gagné.
Foutu,
parce que c'est ça quand même le début du film. C'est, il faut du pognon pour empêcher des promoteurs de détruire leurs quelques petites maisons, en fait leur univers.
Leur univers.
Et c'est pour ça que c'est toujours étrange d'entendre des gens quelque part descendre le film, parce que
tout ce qu'on vient de dire est à l'image du film, c'est-à-dire que c'est un film excessivement généreux en tout, et dans tous les genres possibles. Donc effectivement, en aventure, en comédie, en drame, en romance, il y a une densité incroyable en termes de dialogue. C'est vraiment un film parfait pour n'importe quel gamin, et je pense qu'il y a des adultes qui le critiquent parce que bah ils ont perdu justement définitivement ce côté enfant et qu'ils le retrouvent absolument pas.
Et justement, je me demande si la nostalgie qui entoure les Goonies, c'est pas parce que ce film incarne visuellement la fin de l'enfance. Il est dit au début du film que c'est la dernière fois que les Goonies sont réunis.
Bien sûr.
Alors, il me semble que, enfin, ils le disent au début, ils disent que c'est leur dernière chance d'être réunis si les goons de Docs sont détruits. Donc à la fin, ils arrivent à le sauver, donc c'est pas... Pour moi, peut-être que après c'est dans ma tête et je refuse que les Goonies se séparent.
Exactement.
Je suis dans le déni total. Mais pour moi, les Goondocks, donc d'où leur nom, les Goonies, ne sont pas détruits et donc ils vont, ils restent ensemble puisqu'ils arrivent à virer les.
Oui, mais justement, Steven Spielberg a toujours expliqué que si, parce qu'ils ont longtemps caressé l'idée d'une suite,
du 2, ouais.
Mais que toutes les versions qu'il a pu voir passer n'ont jamais été à la hauteur de ce qu'ils avaient réussi à créer ensemble.
Bien sûr.
Et même aujourd'hui, quand on réfléchit à la liberté dont jouissaient ces enfants par rapport à celle de nos enfants aujourd'hui, on sait très bien qu'on n'imagine pas une seule seconde un tel groupe partir aussi longtemps à l'autre bout du monde, sans téléphone portable, sans rien, mais
exactement,
où tu vas.
On serait confronté à la technologie qui ferait que le film ne pourrait presque pas exister à cause de ça.
Ils iraient même pas parce que ça capte pas en dessous, donc ils voudraient pas y aller.
Donc il y a quand même cette notion de ils ont vécu une aventure qui ne pouvait avoir lieu qu'en 1985, comme ça.
Qui est propre à une époque, t'as raison. Mais ouais, par contre, quand on posait la question tout à l'heure de savoir si le film ne tenait quelque part peut-être que à la nostalgie, le film a coûté à l'époque 20 millions de dollars, on a rapporté 60 millions. Et il faut savoir que le film est ressorti aux États-Unis en 2010 et plusieurs années après, et rapporté régulièrement 1 million de dollars en général. Donc si c'était juste ça, on n'aurait pas ce phénomène cyclique de gens qui peuvent redécouvrir, mais aussi faire découvrir. Donc quand il y a un phénomène de transmission, pour moi, ça prouve que le film est de qualité, qu'on a envie justement de le partager avec d'autres, et que s'il tenait que à la nostalgie ou au fanservice, ça s'écroulerait très rapidement. Donc non, pour le coup.
Ça prouve aussi que les parents ont envie de montrer à leurs enfants sur un grand écran une aventure avec des enfants dedans, et pas forcément un mec qui s'est fait piquer ou qui a reçu du sérum pour devenir extraordinaire.
Et en plus, enfin, c'est un paradis perdu, certes, mais de toute façon, ça ne peut pas. Enfin, ce n'est jamais, c'est à la fois la fin des Goonies et en même temps, c'est le début de tout rêve d'aventure. Le dernier plan, c'est quand même un bateau de pirates
qui s'en va,
qui ressort des limbes et qui s'en va sur l'océan. Alors que pas une seconde, on s'interroge sur le fait que ben on va aller récupérer ce bateau pour récupérer le trésor. Non, on laisse partir ce bateau. Ouais. Si ça veut pas dire qu'il faut laisser voguer l'aventure,
eh bien,
c'est le plus beau des messages.
Laissons voguer l'aventure et laissons voguer la musique. Come and get it, The Slump and C.W. Jones.
Like there's nothing left to lose. Be unbroken, struggling with these blues. Take my love and send it into space. Twist a knife into my back and run. Charlotte, you're in love with me. Don't weigh me down.
healer, but sometimes it's just standing still. Stops moving like a manga will. It don't amount to much, blazing on an ounce of dust. Been there, done that, lost a bloody t-shirt. I face neglect and now my teeth hurt. I'm happy for the blue skies in the morning. Happy for the breath inside my lungs and for these legs that keep me walking. Happy that my heart is still beating. I'm happy that I'm finally eating. I'm happy that I got to speak to you this evening. I'm happy that you're happy too. I'm working hard. I found a lot of spirit in this lonely yard. But I'm happy that I'm finding my feet. People think I'm strong, but I'll admit that I'm weak. Cause in dark days you need to comfort yourself. You need to be kind, choose love, look after your health. I guess I got it wrong, a couple twists and turns ago. Sometimes it turns out you just need to learn to grow. I like the cherry blossom falling from these spring trees. It gives me air to breathe, it gave me love to choose. And I'm serious about my dreams. To live good, to live clean and to be free. I guess it's time to let you go now. I watch you fly, but I still catch you when you float down.
C'était Slump and C.W. Jones avec Come and Get It.
Hey, petit, tu vas cracher le morceau et nous raconter toute ton histoire.
Toute mon histoire?
Toute ton histoire.
Toute mon histoire. D'accord, je vais vous la dire. En 9e, j'ai triché à la compo d'histoire et géographie. En 8e, j'ai fauché la moumoute de mon oncle masque et je l'ai collé sur ma figure pour jouer Moïse à la fête de mon cours d'hébreu. Et en 7e, j'ai fait tomber ma sœur Heidi dans les escaliers et j'ai fait punir le chien. C'est pour ça que ma maman m'a envoyé dans une colo spéciale pour les enfants trop gros. Et alors, un jour au déjeuner, j'ai craqué et je me suis goinfré et ils m'ont foutu à la porte. Mais le pire des trucs que j'ai jamais fait, j'ai fait une bouteille de faux vomi chez moi et je suis allée au cinéma de mon quartier. J'avais la bouteille sous mon sweatshirt. Je suis montée m'asseoir au balcon et alors... Et alors j'ai fait un bruit dégueulasse. Et j'ai vidé la bouteille de dégueulis. Je l'ai jeté par-dessus bord sur la salle. Et alors, ça a été vraiment horrible. Tout le monde s'est mis à dégueuler dans la salle. Ils dégueulaient partout les uns sur les autres. De toute ma vie, j'ai jamais autant regretté ce que j'avais fait.
Mais il commence à me plaire, ce gosse, man.
Appuie sur purée.
Non, je suis trop jeune. Oh. Non, je veux jouer du violon.
Non, je veux jouer du violon, mais je l'ai revu il y a très peu de temps avec mes enfants, et vraiment, cette phrase me fait toujours rire. Non, je veux jouer du violon,
tu peux le gymnase, et je vais te cogner si fort que quand tu travailleras, tes fringues seront plus à la mode. C'est vraiment, c'est fou. Quoi.
Et alors, dans les films qui mettent en vedette des enfants dernièrement, des grosses productions, on a eu évidemment Harry Potter, une fois de plus de Chris Columbus. Mais il y a également eu la série Stranger Things ou même le film ça. Et j'étais assez surpris de voir que finalement, il n'y a pas tant de films d'aventure destinés aux enfants, où on ne les prend pas pour des abrutis, diffusés sur grand écran. Comment on explique que finalement, ce genre n'ait pas été repris par d'autres et peaufiné, et qu'on soit toujours dans une sorte de nostalgie des années 80? Même Stranger Things se passe dans les années 80 également.
Et Stranger Things n'est pas identifié, que je sache, comme une série pour les enfants en plus.
Non.
Non plus.
Non, non. Les héros sont des enfants, mais c'est pour les adultes. Oui.
Je pense que, en fait,
pour les adultes qui étaient des enfants à l'époque.
Qui étaient des enfants à l'époque, exactement.
Fin 80, en fait, la bascule s'est passée, à mon avis, au niveau des années début 90, en fait. Pour moi, la bascule, c'est 90 avec Gremlins 2. Qui est, en fait, pour moi, la charnière, parce que c'est la suite de Gremlins, qui est le film Amblin, par excellence.
Amblin, qui la boîte de prod.
La boîte de Spielberg, pardon. Et c'est du pur Spielberg, Gremlins. Et Gremlins 2, Spielberg a laissé Joe Dante faire sa suite. Et Joe Dante, qui est, on va dire, l'anti-Spielberg, c'est-à-dire que c'est vraiment un sale gosse, mais un vrai sale gosse.
Oui. Avec une vraie critique.
Avec une vraie critique politique derrière.
Et sociétale, ouais. Oui.
Voilà. Là, sans Spielberg derrière pour lui dire non, pas ça, pas comme ça, parce qu'il a beaucoup intervenu sur le premier, Spielberg, mais pas du tout sur le 2. Gremlins 2, c'est le premier gros film méta des années 90 où on va avoir Christopher Lee en face de lui-même de Dracula et les Gremlins qui viennent déchirer la pellicule et Hulk Hogan qui parle à la caméra et 3500 références toutes les 22 secondes. Et Spielberg a détesté Gremlins 2. Il a demandé à Joe Dante, mais ça va être ça les années 90. Et oui, puisque la décennie 90, c'est la décennie méta qui a son grand film qui analyse chaque genre.
Il faut préciser pour les auditeurs que la dimension méta, c'est quand en fait il y a une sorte de mise en abîme du cinéma sur lui-même.
C'est ça, voilà.
Et donc, une référence de son propre cinéma.
Chaque genre a été auto-analysé. Donc on a eu Scream pour l'horreur, on a eu Last Action Hero pour l'action, Gremlins 2 pour le fantastique. Vraiment chaque, enfin, j'ai pas tout listé, mais c'est incroyable. La décennie 90, c'est le méta, c'est on peut plus rêver comme avant. Il y a plus cet imaginaire fou des années 80.
Cannibale soi-même dans son imaginaire.
C'est une manière de dire regardez comme on était neuneux. C'est un petit peu l'adolescent qui renie un peu son enfance pour moi les années 90, qui s'autocritique en fait en disant non ça c'était avant, c'était sympa, c'était mignon mais j'ai grandi. Et puis bah les années 2000, bah après bah il y a eu le 11 septembre et là plus de héros. Même les pompiers et les flics peuvent plus nous sauver, donc on bascule lentement vers les super-héros. Et puis bah là, on est dans une phase où même les super-héros n'y arrivent plus, parce qu'on retourne vers toutes les séries de super-héros, The Boys, Watchmen, etc. Même les super-héros sont des anti-héros maintenant. Je sais pas où on va aller la décennie
vers
prochaine.
Le chaos.
Il est possible que la candeur revienne, parce que on critique, on était neuneux. Enfin, les années 90 qui ciblent les années 80 comme neuneux, c'est peut-être pas ça. Mais c'était candide et c'était premier degré surtout.
Les années 80, oui.
Les années 90, c'est l'apparition, ô combien. Et au départ, on a trouvé ça marrant. Et puis finalement, on s'est aperçu à quel point ça pouvait être toxique. Du second degré, du troisième degré, du millième degré.
Ouais.
Avec le cynisme qui allait avec. Avec la vanne, avec l'autodérision. Mais on l'a, nous, vécu en France aussi. Avec certains comiques, certaines marionnettes, certaines chaînes de télé. Non mais et à force, au début c'était drôle ça, la dérision, le cynisme. Mais ça finit par tuer dans l'œuf.
Vous voulez lire ce moment où on a placé des humoristes chroniqueurs un peu partout aussi? Ah ouais, je comprends.
Bon, je m'en vais. Non mais en tous les cas, et je pense que là on est de nouveau au bout, mais complètement au bout de ce cynisme. Et il est possible que la candeur revienne.
Mais ça se tient, t'as raison, parce que c'est vrai qu'à partir de la mort de Kennedy, déjà, le film de Zapruder a donné une noirceur au cinéma parce que les Américains étaient dévastés par ça. Et en général, là, on vit justement une période très, très compliquée. La fin du nouvel Hollywood a donné les années 80 parce qu'on avait besoin de divertissement. Peut-être que là, on va arriver à nouveau, avec cette décennie à venir, à quelque chose de plus léger, de plus candide et qui va ramener à un univers enfantin dont on a besoin pour aller mieux, peut-être, juste tout simplement.
Mais justement, Guillemette, vous me disiez... hors antenne que Céline Sciamma citait les Goonies comme un film de référence.
Oui, il y a ce...
Donc il y a un petit peu des Goonies dans Petite Maman.
Dans le cinéma d'auteur.
Mais en tout cas, vous savez, il y a ce site que je conseille à tout le monde, qui s'appelle la Cinéthèque, qui est un site de location de films, mais qui est complètement géré par des cinéastes eux-mêmes. C'est-à-dire ce sont les cinéastes qui vous font une liste de conseils. Et mais des cinéastes genre Scorsese, Jacques Audiard, enfin tout le monde. Et ben Céline Sciamma, dans sa liste de conseils de films, ça lui est paru absolument évident de mettre les Goonies, parce que c'est une cinéaste de l'enfance et qu'elle respecte ô combien justement ce film comme un film de l'enfance, qui est essentiel de l'enfance.
Eh bien, merci Guillemette. C'est la fin de cette émission. C'est toujours court, hein, les étés.
Ouais, ça va trop vite.
Guillemette Odissino, Quentin Durand, Dedo, merci d'avoir été avec moi pour évoquer les Goonies. Vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 ou en parler sur la page Facebook de l'émission ou sur Twitter avec le hashtag BlockbusterEFI.
Alors, vous voyez, vous ne m'écoutez jamais. Je l'ai dit qu'on allait avoir plein d'emmerdes, mais vous ne m'écoutez jamais. Vous êtes tous des dingues. Vous sautez sur tout ce qui peut vous faire du mal. C'est la maison de fou qui vous attend. Vous avez déjà vos noms inscrits. Mais moi, je me tire, et vite fait. Je le tiens, je le tiens, je le tiens. Je le tiens plus.
Du con la joie.
Demain, dans Blockbuster, on va explorer l'histoire d'un groupe de musiciens aux muscles saillants qui roulent sous la chemise, aux mélodies pleines de fureur, aux paroles teintées de spleen et de désespoir. Un groupe qui a tragiquement perdu un de ses membres, un groupe qui a un nom de métal. Non, pas Alliage. Oui, d'accord, ça pourrait être ça, mais c'est pas Alliage. Désespoir, musique et fureur. C'est Metallica, voyons.
France Inter.